Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent réveil en notre compagnie sur VOA Afrique et très bon début de semaine au micro Nicolas Pineau et Michel Joseph ce matin. Bonjour Michel.
Bonjour Nicolas.
À la une de notre émission.
Manifestation de l'opposition nigérienne à Niamey contre le fichier électoral.
L'avion russe qui s'est crashé dans le Sinaï égyptien a-t-il été abattu par le groupe État islamique ? En tout cas, les corps d'une partie des victimes ont été rapatriés ce matin sur Saint-Pétersbourg.
Plus léger, nous vous parlerons du cinéma indien qui fait un tabac dans les rues de Brazzaville.
Nous, les femmes congolaises, ce qui nous attire, ce sont les histoires, au fait, les histoires que ça raconte. Parce qu'à la télé, il n'y a que ça. Et puis, il y a des CD qui sont vendus. On dépense vraiment de l'argent pour ces films-là. Mais vraiment, je ne peux pas m'en passer.
Et comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho et le journal des sports. Qualification du Mali et du Nigeria pour les demi-finales de la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Chili. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
À Niamey, les opposants se font entendre. Ils étaient plusieurs milliers réunis hier pour manifester devant le Parlement contre le président Mahamadou Issoufou. Les responsables de l'opposition demandent un audit du fichier électoral en vue des prochaines échéances électorales. Les détails avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le chef de file de l'opposition nigérienne, Seni Oumarou, n'a pas été du tout tendre avec le régime en place.
Aujourd'hui, les Nigériens ont perdu tout repère et s'interrogent légitimement sur leur avenir. Ils se demandent jusqu'où les mèneront l'insouciance et l'irresponsabilité du gouvernement et du président de la République, Issoufou Mahamadou, en personne.
Mais ce qui a surtout suscité l'appel à la mobilisation de ce dimanche, c'est le processus électoral en cours en vue des élections générales de 2016 au Niger. Un processus pas du tout transparent, selon l'opposition, avec pour dernier fait illustratif le fichier électoral.
Et au vu du retard déjà inévitable enregistré dans la confection du fichier électoral, quel crédit donner au fameux chronogramme de la CENI ? Ce chronogramme est devenu caduc. Je réaffirme que l'opposition politique n'acceptera jamais un fichier qui n'est pas conforme aux prescriptions de la loi.
Satisfait de cette première manifestation, le chef de file de l'opposition a demandé à leurs militants de maintenir la pression. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Médecins sans frontières rejette avec la plus grande fermeté les accusations du porte-parole de la police burundaise qui avait insinué que l'ONG soutenait les insurgés opposés au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Dans un communiqué, MSF affirme traiter les blessés seulement sur une base médicale. MSF ne choisit pas son camp dans un conflit mais cherche à fournir un service médical de haute qualité destiné à sauver des vies pour les gens qui en ont besoin, a ajouté l'ONG.
14 agents de l'ONG congolaise ont été enlevés dimanche dans le Nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru. C'est ce qu'affirme à l'AFP Paul Muhaza, directeur du centre de développement rural qui emploie les 14 agents. Jointe par téléphone à Rutshuru, l'administrateur adjoint de ce territoire, Liberata Burotwa, a soupçonné les rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda d'être les auteurs de ces enlèvements. Lundi dernier, plusieurs agglomérations du territoire voisin de Lubero avaient été paralysées par une journée ville morte après une attaque de rebelles des FDLR.
Le pape François s'inquiète de la situation en Centrafrique. À peine plus de 3 semaines de sa tournée en Afrique, le Saint-Père a lancé un appel aux parties en conflit afin qu'elles mettent fin à la violence. Il s'est dit vivement préoccupé par la situation délicate que vit la Centrafrique en appelant, je cite, à mettre fin au cycle de violence.
Au moins 12 personnes ont été tuées hier dans l'attaque d'un grand hôtel de Mogadiscio. Les Chababs ont utilisé un véhicule bourré d'explosifs pour se frayer un chemin à l'intérieur de l'établissement, selon la police. C'est l'acte d'un groupe extrémiste de plus en plus désespéré et qui connaît des divisions internes, a réagi le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud dans un communiqué après que les forces de sécurité eurent réussi à venir à bout de la résistance des Chababs.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, en ce lundi matin, crash d'un avion russe dans le ciel égyptien. Alors que l'enquête sur les causes de cette catastrophe et les recherches des corps se poursuivent en Égypte, un avion transportant les corps d'une centaine des 224 victimes a quitté le Caire hier soir. Il est arrivé ce matin à Saint-Pétersbourg. Henri Francisque.
C'est à Saint-Pétersbourg, hier soir, que plusieurs milliers de personnes ont rendu hommage aux 217 passagers et 7 membres d'équipage décédés dans la catastrophe. Tous russes, à l'exception de 3 Ukrainiens. Il s'agit de la pire catastrophe aérienne ayant touché la Russie. L'Airbus A321 de la compagnie charter russe Metrojet, qui s'est écrasé dans le désert égyptien du Sinaï, avait décollé de la station balnéaire égyptienne de Charm el-Sheikh. Les autorités égyptiennes et russes ont affirmé ne pas être en mesure d'annoncer les causes du crash, mais l'hypothèse d'un attentat reste envisagée par les experts. La branche égyptienne du groupe État islamique a en effet annoncé samedi avoir détruit l'avion en représailles, selon elle, au bombardement russe en Syrie. Le chef des experts aéronautiques russes a affirmé que l'avion s'était disloqué en l'air pour une raison encore inconnue. Cette dislocation a eu lieu à haute altitude, a de son côté expliqué à la télévision russe depuis l'Égypte le directeur de l'agence russe chargée du transport aérien, Alexandre Neradko. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, pour sa part, a appelé à attendre les résultats de la vaste enquête techniquement compliquée avant d'évoquer les raisons possibles du drame.
Au moins 15 migrants, dont 6 enfants, ont péri hier dans 2 nouveaux naufrages survenus en Égée, selon un dernier bilan des gardes-côtes. Depuis le début de l'année, les arrivées par la mer en Grèce ont atteint le chiffre de 580 000, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, sur un total de 723 000 arrivées en Méditerranée.
En Turquie, le parti du président Erdogan savoure une victoire aux législatives. Le parti de la justice et du développement AKP a pu, contrairement aux pronostics de plus d'un, arracher une majorité à l'Assemblée nationale. On fait le point avec Chérubin Dorsil.
C'est une victoire qui surprend par son ampleur. En effet, 6 mois après avoir perdu sa majorité au Parlement, l'AKP, ou Parti de la Justice et du Développement, vient de remporter au moins 320 des 550 sièges de l'Assemblée. Les résultats, après dépouillement dans 95% des bureaux de vote, sont largement en faveur de l'équipe au pouvoir. C'est le 2e scrutin en 6 mois. On se souvient qu'il avait convoqué le peuple aux urnes quand il a perdu sa majorité en juin pour la première fois en 13 ans et après l'incapacité du Premier ministre Ahmet Davutoğlu à former un cabinet de coalition. Les électeurs sont sortis en masse, environ 88%, soit 10% de plus qu'en juin. La victoire des islamo-conservateurs n'a pas plu à certains éléments de la communauté kurde qui ont protesté à Diyarbakir, dans l'est de la Turquie, mais ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène, selon un correspondant de la Voix de l'Amérique.
Fraîchement élu, ici aux États-Unis, le nouveau président de la Chambre des représentants, le républicain Paul Ryan, a affirmé dimanche qu'il refusait de collaborer avec le président Barack Obama sur l'immigration, écartant toute éventuelle réforme avant 2017. On ne peut pas faire confiance au président sur ce sujet, a déclaré M. Ryan.
François Hollande est ce lundi dans la ville industrielle de Chongqing pour une visite officielle de 2 jours en Chine. Le président français vise à lancer avec son homologue Xi Jinping un appel pour lutter contre le réchauffement climatique. Cette visite intervient avant la grande conférence de l'ONU sur le climat qui s'ouvre le 30 novembre prochain en France. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde Aujourd'hui, ainsi s'achève ce journal. Place à présent à la Minute Éco, présentée ce matin par Nathalie Barge.
Selon une étude de la Fondation Mastercard, beaucoup de jeunes Africains considèrent que l'agriculture n'est pas une profession viable, rapporte l'APA. Les résultats préliminaires de cette enquête sur le comportement des jeunes face au travail montrent que bon nombre d'entre eux sont obligés de faire de l'agriculture de subsistance. Les jeunes en Afrique doivent avoir plusieurs emplois pour survivre, indique l'étude, soulignant toutefois que beaucoup concrétisent diverses idées de micro-entreprises. La bourse de Johannesburg va enquêter sur de possibles délits d'initiés au sein de l'opérateur mobile MTN, sanctionné d'une amende de plus de 5 milliards de dollars par le régulateur de télécommunications nigérian pour ne pas avoir désactivé à temps toutes les cartes SIM incriminées, rapporte l'AFP. L'amende révélée lundi matin dans la presse nigériane a entraîné une vente massive d'actions MTN. La loi sud-africaine exige que les entreprises avertissent immédiatement leurs actionnaires de toute information situation susceptible d'influer sur le cours de l'action. Les économies en voie de développement ont accéléré leurs réformes l'an dernier, selon le rapport Doing Business 2016 de la Banque mondiale, cité par Financial Africa. L'Afrique subsaharienne, avec 69 réformes, soit 30% à l'échelle mondiale, est la région la plus dynamique en matière d'amélioration du climat des affaires. Dans le top 10 des meilleurs réformateurs, 5 pays africains, la Mauritanie, le Bénin, le Sénégal, l'Ouganda et le Kenya.
Merci Nathalie pour cette Minute Éco. Place à présent au sport. Et pour parler du sport, ce matin, nous retrouvons Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Nicolas.
On commence par du football au Chili. Excellente nouvelle cette nuit. Qualification des jeunes Maliens pour la demi-finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. La Croatie n'a tout simplement pas fait le poids contre les Aiglons qui l'emportent grâce à un but de Sekou Keïta en première mi-temps. Victoire 1-0. Le Mali connaîtra la nuit prochaine son adversaire dans le dernier carré. Il s'agira du vainqueur du quart de finale entre la Belgique et le Costa Rica. Autre bonne nouvelle, Élisée, pour l'Afrique ce matin, puisque le tenant du titre nigérian s'est lui aussi qualifié.
C'est grâce à leur succès de 3-0 face au Brésil que les jeunes Nigériens se sont qualifiés pour les demi-finales. Les tenants du titre se sont appuyés sur Osimhen, Michael et Anoumoudou pour éliminer le Brésil, 3 fois vainqueur de cette Coupe du Monde.
Football toujours, le tout-puissant Mazembe fait un pas vers sa 5e victoire en Ligue des Champions et s'impose en Algérie.
Le club congolais s'est imposé à Alger face à l'USMA 2-1. Un pénalty manqué lui aurait permis de creuser un écart plus important. Ce match agréable a été marqué par 2 expulsions, une dans chaque camp et par un comportement parfois limite des supporters algérois très déçus. Match retour dans une semaine à Lubumbashi.
On continue à parler du ballon rond. Désormais, on connaît le nom des 2 derniers pays qualifiés pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2016, réservé aux joueurs locaux.
Il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Les 2 équipes ont obtenu leur ticket le week-end écoulé. Le Cameroun, vainqueur du Congo à Brazzaville 1-0. Les 2 équipes avaient fait match nul à Yaoundé, 0-0. C'est Ronald Onga qui a marqué à la 73e minute. De son côté, la Côte d'Ivoire a écarté le Ghana grâce à sa victoire de 1-0. But marqué par Boakoffi Davila. À l'aller, les Ivoiriens se sont inclinés sur la marque de 2-1.
Direction le Burkina à présent. Pour parler cyclisme, le Tour du Faso. La 3e étape courue dimanche entre Kombisiri et Kaya, 142 km, a été remportée par l'Érythréen Mikel Aptom. Il a été suivi par ses compatriotes Debesay Mekseb et Jonathan Aïlou. L'Érythrée est attendu comme l'un des favoris cette année. Le maillot jaune reste en revanche sur les épaules du Marocain Laïcéni Moussine. Abdulaziz Nikiema remporte quant à lui le maillot rose des sprints intermédiaires. La 4e étape, ce sera ce lundi entre Ouagadougou et Koudougou.
Effectivement Nicolas, et décidément cette édition est pour l'instant l'affaire de l'Érythrée qui signe ainsi sa 2e victoire d'étape.
À l'Élysée, on parle handball avec la Coupe des clubs champions. Le Zamalek chez les hommes et le Primero de Agosto chez les dames sont sortis vainqueurs de cette édition 2015.
Ah oui Nicolas, le club égyptien a empêché le club africain de tennis de conserver son titre en le battant en finale 35-22 à Nador au Maroc. Par contre, au niveau des dames, le Primero do Agosto conserve son titre. Les Angolaises ont battu leurs compatriotes de Petro Atletico 23-31.
Le rugby est vraiment un sport néo-zélandais. Les All Blacks remportent la Coupe du Monde de rugby en Angleterre et entrent dans l'histoire.
Les All Blacks se sont offerts un 2e titre d'affilée de champion du monde en battant l'Australie à Twickenham 34-17. Il s'agit là du 3e sacre mondial pour la Nouvelle-Zélande après ceux de 1987 et 2011 conquis à chaque fois à domicile. Et notons que l'Afrique du Sud a remporté la 3e place en battant l'Argentine 24-13.
Enfin, je vous donne quelques résultats de la NBA cette nuit. Le championnat de basket nord-américain, San Antonio a remporté sa 1ère victoire de la saison à l'extérieur au TD Garden face à Boston 95-87. Le trio Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan est devenu le plus prolifique de l'histoire de la NBA avec, tenez-vous bien, 541 victoires à eux trois. Coup de chapeau. Atlanta s'impose à Charlotte 94-92. À domicile, Miami bat Houston 109-89. Enfin, Toronto qui corrige Milwaukee 106-87. Voilà pour cette page des sports et l'on remercie Élisée Ongpatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Retour sur les cérémonies de commémoration de la révolution au Burkina Faso. Un an après la chute du régime de Blaise Compaoré, l'accent a notamment été mis sur les victimes qui sont tombées pour accompagner la longue marche vers la liberté des Burkinabés. Reportage à Ouagadougou du correspondant de VOA Afrique, Zoumana Wonogo.
À l'occasion de la première journée d'hommage aux martyrs, les décomptes macabres font ressortir 42 tués et environ 925 blessés. Des blessés qui ne sont pas du tout contents de la transition. Leur président, Dramani Ouedraogo, a jeté un pavé dans la mare.
Ça fait un an aujourd'hui, mais une année très longue pour nous les blessés. Oubliés, abandonnés, négligés, nous sommes tristes, nous sommes frustrés, nous sommes déçus. Et les blessés de l'insurrection populaire et du putsch des 16 attendent une action concrète de vous. Pendant longtemps, vous avez fait des promesses solennelles qui n'ont jamais été suivies d'action.
À côté de cette justice sociale, l'Union des familles des martyrs demande elle aussi la justice pénale, suivant le président Babou Bamouni.
La vérité et la justice est notre forte attente. Un an après l'insurrection populaire, seuls 5 dossiers ont connu un début d'instruction, une situation qui nous laisse sceptiques quant à la volonté politique réelle de faire triompher la vérité. Nous attendons la justice, la vraie, où le droit de la victime est respecté. Nous attendons la justice équitable, où le droit de l'accusé est respecté. Dans ce sens, les familles victimes du coup d'État ont pris la résolution de se constituer partie civile auprès du tribunal militaire qui conduit l'instruction.
En réponse aux préoccupations des blessés et des familles des martyrs, le président de la transition, Michel Kafandou, a dit ceci.
Nous poursuivons toutes actions en ce qui concerne les poursuites pénales, mais chacun comprendra les difficultés procédurales qui peuvent occasionner des lenteurs dans l'avancement des dossiers de cette nature. C'est au regard de ces difficultés que le gouvernement a décidé de mettre en place une commission d'enquête dont la composition pluridisciplinaire et l'expertise de ses membres devraient permettre de compléter le travail de la justice.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Cameroun, 2 ans après la décision de l'État de fermer certaines églises, le phénomène persiste et prend de l'ampleur. Les promoteurs de ces lieux de culte prêchent l'espérance et la prospérité dans un pays où la pauvreté et le chômage ont pignon sur rue. Reportage sur ce phénomène à Yaoundé avec notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Les églises de réveil fonctionnent des plus belles au Cameroun, malgré les décisions des pouvoirs publics de les fermer. Ces lieux de culte tiennent ainsi tête à l'État, qui les considère désormais comme un véritable fléau social. Une lecture que partagent bon nombre de Camerounais, comme Angola Yannick et Atua Fouda Aman, habitants de Yaoundé.
Les maisons qui sont transformées en églises, ça pose forcément un problème au voisinage. Vous savez très bien qu'après une dure journée de travail, les gens ont forcément besoin de se reposer, donc les gens ne se sentent pas forcément à l'aise. Bon, il y a aussi le côté cupide. Certaines personnes créent des églises justement parce qu'ils ont besoin de se faire de l'argent sur le dos des croyants.
Mon habitation ne peut pas devenir une église pendant que vous cohabitez, vous avez un même appartement, que vous divisez en deux, vous dites ça c'est l'église, ça c'est la maison d'habitation d'une autre personne, ça devient emmerdant.
En dépit des nuisances sonores, de la promiscuité, des envoûtements et autres escroqueries, certaines personnes à Yaoundé comme dans le reste du pays continuent d'y aller. Selon Chechela, une fidèle, la terre promise passe par là.
Ce n'est pas un péché. Si tu crois en Dieu, tu seras guéri. Même par ta foi, même quand tu pries pour toi, tu seras guéri. Si tu pars à l'église, là que tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne peux pas guérir.
Amen. Honor be to God in the highest. Amen.
Les responsables de cette congrégation religieuse ne demordent pas. La plupart reconnaissent l'autorité de l'État, mais affirment aussi être investis d'une mission divine, comme l'explique le pasteur Etundi Hubert de la Worldwide Mission et révérend Atana Dieudonné du ministère Semences de Vie.
Selon Romains chapitre 13, nous qui sommes des églises, des serviteurs de Dieu, nous devons travailler en partenariat avec les autorités. L'autorité, le politique fait son travail et nous qui sommes des églises, nous devons aussi faire le nôtre.
Oui, normalement, l'État est là pour essayer de canaliser les choses. Ce que nous apportons, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu telle qu'elle est prescrite dans la Bible.
Les églises catholiques et protestantes les assimilent aux faux prophètes dont fait mention la Bible parlant de la fin des temps. Un argument jugé léger par les promoteurs de ces églises réveillées, révérend Atana Dieudonné.
La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dès que tu crois en Jésus-Christ, que ce soit un pasteur, que ce soit un chrétien, il y a une certaine puissance de Dieu qui t'accompagne le long de ton ministère.
Le fusionnement des églises réveillées est perceptible au Cameroun depuis les années 1990. La plupart de leurs fondateurs viennent du Nigeria. Moki, Edwin Kinzeka, Yaoundé, VOA Afrique.
Parlons à présent de l'Internet à Lomé où tous les derniers vendredis du mois, l'American Corner de l'Université de Lomé vibre au rythme des technologies de l'information et de la communication. L'événement vendredi-tique existe pour permettre aux jeunes Togolais de mieux appréhender les TIC. Reportage de notre correspondante Kay Lawson.
De jeunes internautes togolais ont été entretenus sur la sécurité sur Internet et le crowdsourcing dans le cadre de l'initiative Vendretique. Emefa Kbegba, co-initiatrice de la plateforme de crowdfunding au Mobile Funding, n'a pas caché sa surprise lorsque son auditoire a reconnu ignorer l'existence de la plateforme Ushaidi.
Wow! Ushaidi ne vous dit rien? Oh! Non!
C'est pour permettre à ces jeunes de quitter cette étape en deçà de zéro que les anciens boursiers des programmes d'échange de l'ambassade des États-Unis au Togo ont initié les vendredis au rythme des TIC vendredis. Silvio Kombe est le président de Global Alumni Association of Togo, GAT.
Aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, ça va très vite. C'est pour cela que nous avons pensé à initier cette plateforme qui puisse permettre à des jeunes de se former gratuitement.
Pour Emefa Kbegba, il est urgent de recadrer les jeunes Togolais sur Internet.
Les gens sont connectés mais ne vont pas vers les bonnes ressources pour pouvoir s'émanciper technologiquement. Il y a une facture informatique technologique qu'on doit combler.
Pour une émancipation technologique à moindre risque, le module sur la sécurité sur Internet a permis aux participants de retenir quelques astuces.
Ce qui m'a le plus intéressé, c'est la sécurité Internet parce que ça m'a permis de savoir comment prochainement sécuriser mes données sur Internet, savoir les codes que je dois mettre, lorsque je dois les changer, quand est-ce que je dois les renouveler.
Ces informations-là vont pouvoir permettre de mieux gérer les informations que nous postons sur Internet parce que tout est enregistré.
Le rendez-vous est donc pris pour le dernier vendredi de ce mois de novembre, c'est-à-dire le 27 prochain. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Direction Libreville, où les fidèles de la confrérie sénégalaise des Mourides préparent leur pèlerinage vers la ville sainte de Touba au Sénégal, le Grand Magal. Il aura lieu dans un mois. Et pour mieux appréhender cet événement qui marque la déportation au Gabon du créateur de la confrérie, cher Armadou Bamba, la haute hiérarchie de la confrérie a choisi de camper durant une semaine dans la capitale gabonaise. Notre correspondant à Libreville, Jean Rovis Dabani, les a suivis.
Vêtus de leurs grands boubous, ils ont marché fièrement dans les rues de Libreville, la capitale gabonaise, brandissant les portraits et banderoles à la gloire du créateur de leur confrérie, Cheikh Amadou Bamba. Le mini pèlerinage a commencé à la mosquée Montagne Sainte. C'est ici où priait Cheikh Amadou Bamba. Le groupe des pèlerins, encadré par la police, s'était branlé vers le boulevard du bord des mers. Première escale, le débarcadère où le navire transportant Cheikh Amadou Bamba avait accosté en 1895.
Bon, on marche tellement parce que la journée culturelle de Serigne Touba aujourd'hui, ici au Gabon, vraiment, c'est ça qui nous a poussé ici à marcher ici.
Après plus de 2 heures de prière à l'endroit où le fondateur de Mouride avait embarqué pour regagner le Sénégal après sa punition au Gabon, Gabon, les pèlerins ont traversé le palais présidentiel et se sont immobilisés sur le second débarcadère où les navires quittaient Libreville pour d'autres destinations.
C'était une fierté vraiment pour nous d'être au Gabon, vraiment. Que Serment Bamba a vécu dans ce pays-là et qui a tout subi aussi sur les nom de ces blancs-là. C'est un homme de Dieu, c'est un homme de clément, c'est un homme qui a tout pardonné malgré tout ce qu'il a subi dans ce pays.
Le fondateur du mouridisme avait embarqué sur ce quai aujourd'hui en ruine pour regagner son Sénégal natal. La très longue et lente procession s'est terminée devant la mosquée centrale à la grande satisfaction de Sirou Mbaké Abdou, petit-fils d'Amadou Bamba.
Très satisfait, qui montre la victoire éclatante de Cheikh Ahmed Bamba sur ce qu'il avait amené ici en 1895, espérant qu'il ne revienne jamais. Et aujourd'hui, je pense que c'est la preuve la plus éclatante avec tout le peuple gabonais qui nous a accueillis si merveilleusement, avec le président Ali Bongo qui nous a également accueillis. Et je crois qu'aujourd'hui, toute la communauté de Mouride est heureuse et fière.
Cheikh Amadou Bamba fut résistant sénégalais. Les colons français l'avaient déporté au Gabon où ils espéraient le voir mourir. Détenu à Libreville, pour Jean-Pierre Mayumba, il regagnera son pays 7 ans plus tard. La centaine des pèlerins venus du Sénégal, sous la direction du petit-fils d'Amadou Bamba et surtout porte-parole du Khalife général de Mouride, sillonne actuellement les villes de Port-Gentil et Mayumba pour revivre les douleurs du sahélien Cheikh Amadou Bamba en pleine forêt équatoriale de 1895 à 1902. Libreville, Jean Revis d'Abanu, VOA Afrique.
Et au lendemain du sommet Inde-Afrique qui s'est achevé la semaine dernière à New Delhi, un petit regard sur la percée du film indien à Brazzaville. C'est la ruée vers les DVD de Bollywood dans le pays, comme l'a constaté notre correspondant Nguelan Goussou.
Les hommes d'affaires indiens investissent lentement le Congo-Brazzaville, quelques grandes surfaces de commerce et la conquête du marché des téléphonies mobiles. Même les bus de marque Tata, qui assurent le transport commun à Brazzaville et à Pointe-Noire, viennent de l'Inde. Mais là où chaque Congolais peut dire quelque chose sur les échanges commerciaux avec l'Inde, c'est le cinéma. Le film indien est en effet très prisé dans les villes congolaises.
Nous, les femmes congolaises, ce qui nous attire, ce sont les histoires, au fait, les histoires que ça raconte. Ils mettent en avant la tradition et parfois on se retrouve là-dedans, on se sent un peu proche. Parce qu'à la télé, il n'y a que ça. Et puis, il y a des CD qui sont vendus. Les Ouest-Africains, en tout cas, ils se font de l'argent avec. Le CD est vendu à 500. Donc, on dépense vraiment de l'argent pour ces films-là. Mais vraiment, je ne peux pas m'en passer.
Une ruée qu'on peut facilement constater sur les marchés. Idrissa est vendeur de CD au marché total de Brazzaville.
Oh, le cinéma indien, bon, nous sommes les vendeurs. Bon, ça nous apporte bon, beaucoup de choses avec les habillements, les films. Bon, ça rend aussi intelligent. Pas de la jalousie. Bon, il y a des filles, ils écoutent ça, l'espérance, quoi. Il y a beaucoup, il peut avoir dedans. Ça dépasse même le cinéma nigérien. Hein. Bon, 100%, tout le monde achète, hein, surtout les filles, ni les mamans même. Par jour, vraiment, il y a le jour, ça marche, hein, surtout les élèves. Par jour, même à 10 000, 5 000, on peut venir par les séries comme ça, hein, sans compter les autres séries. Quand c'est fini, il y a une autre série qui vient. Là, c'était Saloni, bon, on est maintenant la fille de ma mère.
Lauréate du prix documentaire du festival français Cause, la réalisatrice congolaise Annette Kwamba Matondo présage un bon avenir pour le cinéma indien au Congo-Brazzaville.
On trouve beaucoup de tenues indiennes que des femmes congolaises portent. Elles ne connaissent peut-être pas la signification de ces tenues. Il y a aussi qu'elles mettent beaucoup de maquillage par rapport à ce qu'elles voient à la télé. Mais techniquement parlant, je pense qu'il y a beaucoup à voir. Ils ont réussi à avoir une notoriété et aussi dans le monde qui nous impose aussi leur réalité à eux. C'est peut-être un cinéma qui va faire succès demain.
Nguelan Goussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Salut les amis, Roger Muntou, La Voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph. Nicolas Pineau était à la présentation. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Avant de se quitter, on va saluer Mamadou Diabara Keita, Hassan Kimba qui est à Niamey, ou encore Boris Nsangou. Comment retrouvez-nous sur notre page Facebook ou notre site internet voafrique.com.